RTL soir jusqu'à 20h,
on refait le monde, Florence Cohen.
Le retour d'On fait le monde avec ce soir Yves Tréhard, directeur adjoint de la rédaction du Figaro, bonsoir.
Bonsoir à tous.
Jean-Luc Manot, conseiller en communication, bonsoir.
Bonsoir.
La journaliste Annie Lemoine, bonsoir.
Bonsoir.
Et Philippe Besson, écrivain de Son État, bonsoir.
Bonsoir.
Alors, on est en pleine crise du porc, hein. Deux problèmes principaux ont été abordés aujourd'hui lors de la table ronde au ministère de l'Agriculture, celle des surplus, puisqu'il y a eu des invendus la semaine dernière, et surtout celle de la reprise des cotations au marché de Plérin dans les Côtes d'Armor. Il y en aura à nouveau demain, mais sans les deux principaux industriels. Alors bon, au final, à moyenne échéance, il va falloir en faire quoi de ce prix d'1,40€ le kilo? Et bien au-delà du prix, il va falloir sacrément la réformer, cette agriculture française, non? À bas les charges et les normes, Annie Lemoine?
Je crois que c'est ce que Stéphane Le Foll est en train de faire, hein, une annonce des réformes structurelles. Je crois qu'on ne peut pas y échapper. Le producteur, l'éleveur de cochons en France n'est pas au-delà, puisqu'il y a une crise générale, on le sait, hein, la filière bovine, le lait, etc. On est mal parti, on est un peu archaïque, les éleveurs ont la corde au cou, les Allemands sont meilleurs, on sait que l'embargo de Poutine a fait souffrir tout le monde, et nous les premiers, puisqu'on était les plus faibles. Donc oui, on ne peut pas éviter des réformes structurelles. Maintenant, je pense que ça va se faire quand même dans la souffrance, et que dans les semaines qui viennent, Les éleveurs vont, s'ils ne sont pas entendus, écoutés. Il y avait encore des grands absents aujourd'hui à la Réunion.
Les deux gros industriels, voilà, par qui le malaise est arrivé. Quoi.
Voilà, et on sait comment ils agissent, on sait comment ils réagissent. Ils sont vraiment plongés dans le désespoir, on ne peut que les comprendre. Et je pense que d'une façon générale, la grande distribution s'est largement gavée, pour ne pas dire autrement. Voilà, et qu'on n'a pas suffisamment rétribué, fait en sorte que le producteur gagne sa vie. Il ne peut plus continuer comme ça. Enfin voilà, le coût du travail, mais pas seulement, fait que l'éleveur de producteurs de porc est vraiment sur le point de mettre la clé sous la porte.
Alors, à quel aspect du problème on s'attaque en premier, Frère?
Je crois que l'aspect du problème, il est pas tellement à Paris, d'une certaine façon, même s'il faut évidemment beaucoup de courage pour intervenir. Je crois qu'il est plutôt à Bruxelles, si vous voulez. On était dans un système de politique agricole commune dont la France a largement bénéficié pendant des années et des années, ce qui était normal, d'une certaine façon, parce que c'était le premier pays agricole en Europe. Mais quand il a été question de revoir et de corriger la politique agricole commune, de la part des autorités françaises, alors là, pour le coup, il n'y a pas eu d'anticipation. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est que les directives européennes sont d'un tatillon absolument délirant, et je pense que les producteurs en souffrent énormément, et que la France convertit les directives agricoles de façon très fidèlement et de façon trop tatillonne, ce qui fait qu'ils débordent sous des tracas administratifs énormes. Et troisième chose, c'est que il y a absolument pas d'harmonisation sociale à l'intérieur de l'Europe, ce qui est vrai pour les agriculteurs et surtout pour les éleveurs, c'est vrai pour d'autres métiers. À partir du moment où vous avez des pays de l'Europe centrale qui produisent à des coûts de revient, qui sont parfois la moitié de ceux qui sont pratiqués en France, vous pouvez pas vous en sortir. Alors on peut attaquer la grande distribution, on peut attaquer tout ça. Attendez, les gens qui vendent et les transformateurs, hein, et ils vont au plus offrant. Et si les Français sont à 1,40, là où les Allemands sont à 1,20 le kilo, je suis désolé, moi, si j'étais transformateur, je ferais la même chose que ceux qui sont aujourd'hui sur le marché. Donc, j'irais m'approvisionner là où c'est le moins cher. Donc le problème, c'est qu'il n'y a pas eu assez d'anticipation en France, et puis il y a une responsabilité, à mon avis, bruxelloise. On se retrouve un peu dans la même situation, sur une autre dimension que celle des Grecs dans un autre domaine. Il n'y a pas une organisation qui a été valable en France depuis que la politique agricole commune est remise en question.
La France va devoir user d'un énorme pouvoir de conviction auprès de Bruxelles dans ce domaine-là.
Elle devra user d'un fort pouvoir de conviction, ça c'est certain, et je rejoins ce que dit Yves sur la nécessaire harmonisation des règles au niveau européen, etc. Mais je voudrais quand même dire que quand j'entends qu'il faut des réformes structurelles, tout le monde dit ça et on est tous d'accord, je voudrais quand même juste dire que la baisse des charges, c'est pas une réforme structurelle. Que la hausse des prix, c'est pas une réforme structurelle. Que faire de l'étiquetage Made in France, c'est pas une réforme structurelle. C'est des mesures d'urgence classiques face à une situation compliquée. Les vraies mesures structurelles, elles sont plus lourdes, plus importantes et plus douloureuses. Ou aussi plus audacieuses et plus imaginatives. Je pense qu'il faut par exemple susciter des vocations en France auprès des jeunes et favoriser le fait que des jeunes puissent s'installer, etc. Il faut aussi, on l'a dit évidemment, simplifier les normes françaises. Il faut peut-être imposer aux collectivités publiques le fait de fournir que de la viande
made in France. La viande française dans les collectivités, oui.
Mais nos éleveurs, il faut aussi qu'ils se réforment. Parce qu'on peut jeter le blâme, et on a raison, sur les industriels ou sur les distributeurs qui parfois se gavent ici ou là. Mais nos industriels, ils sont passés à côté de plein de changements nécessaires. Le regroupement des élevages, par exemple, il ne s'est pas fait en France, il s'est fait partout ailleurs. Parce qu'on est en train de dire « les autres sont meilleurs que nous ». En termes de prix, on oublie juste de dire qu'ils étaient beaucoup moins bons il y a juste un an. C'est-à-dire que quand on dit l'Allemagne, ils sont... Le prix du porc, il y a un an, en Allemagne, c'était 1,63. Le prix du porc aux Pays-Bas, il y a un an, c'était 1,60. Tous ces pays-là ont fait des économies de 25 à 30 centimes, et nous, rien. Parce qu'on n'a pas fait non plus les réformes nécessaires. Oui, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a un moment, il faut qu'on se saisisse du problème, et que ce problème, il est aussi un problème franco-français. Certes, il y a des choses à faire au niveau européen, mais il y a aussi, de notre côté, à regarder ce que nous n'avons pas fait, et... Par exemple, prenons un exemple, même s'ils ne sont pas un exemple en soi, mais les céréaliers qui vont très bien, les céréaliers. Ouais. Oui, mais parce que les céréaliers, ils ont modernisé et ils ont fait un truc qui est le Big is Beautiful. Alors, en train de prôner le Big is Beautiful, c'est bizarre, mais pour autant, c'est peut-être ça aussi une des solutions.
Parce que ce qu'on dit actuellement, là, ça existait, cette crise existait déjà du temps des bonnets rouges il y a un an et demi.
Bien sûr.
Il était question de l'écotaxe, mais le vrai problème, et on voyait qu'il y avait justement des centres porcins qui fermaient. Ouais. C'était déjà la concurrence.
C'était déjà la crise du porc. Jean-Luc Manot, à vous.
Il y a plusieurs questions en fait qui sont posées. Celle qui vient d'être donnée c'est une vraie question. La question de la taille des exploitations, et quand on voit les mouvements, les cris qui sont faits dès qu'on met 1000 vaches quelque part ensemble.
À juste titre.
On a peut-être à juste titre sur les questions de qualité, mais en tout cas en termes de structure, il y a pas de possibilité. La France a une particularité, c'est qu'elle a des petits élevages, des petites exploitations, et qu'elle n'arrive pas à fonctionner. Donc il y a un premier problème là-dessus. Le deuxième problème, c'est une surproduction. On produit quand on a besoin de 100, quand le marché est capable d'absorber 100, on produit 107. Donc là, évidemment, il y a une question européenne de surproduction qu'il faut gérer, il faut trouver des accords. La troisième chose que je veux dire, parce que comme ça, quand on rentre, ce qui est mon cas, qu'on voit l'actualité, l'idée quand même que l'État décide de fixer le prix du porc.
Mais
l'État dit c'est 1,40, c'est comme ça, parce que c'est comme ça qu'il faut. Et au mois de juillet, j'appelle tout le monde et je dis, dans une économie libre, je leur dis, vous allez acheter le porc à 1,40. Quand on y réfléchit, c'est pas raisonnable, c'est pas tenable. La preuve, ça ne marche pas, on peut pas administrer ça. Et en même temps, on voit bien que c'est assez étrange, parce que l'État en France, qui lève l'impôt et qui donc a la possibilité de baisser les taxes. Il est libre de ça. Et c'est son métier de les augmenter ou de les baisser. Et si elles sont trop hautes dans les situations de crise, c'est qu'elles sont... Il y a un système qui ne marche pas. Or, il ne joue pas là-dessus. Mais en revanche, il décide de faire le marché. Il décide de donner le prix d'achat, le prix de vente. Et on voit bien qu'il ne s'occupe pas de... Il ne fait pas son métier. Il ne s'occupe pas. Et c'est pas seulement sur la crise du porc, d'ailleurs. C'est de manière générale. Et quand l'État décide d'organiser le marché... Je suis pas sûr que les paysans soviétiques dans une administrée étaient très heureux du prix du porc.
Annie Lemoine, sur cet aspect-là précisément, prix dirigé par l'État.
Je pense qu'en fait, les arguments de la droite sont toujours les mêmes, et on réagit trop tard, et il faut changer le ministre de l'Agriculture.
Ça change pas. Jean-Luc Manot est de droite, c'est ça que
vous Non, mais je pense que sur ce coup-là, Stéphane Le Foll est un bon ministre de l'Agriculture.
On n'a pas encore parlé, on y vient après.
Bon, très bien, ça va.
Patience de dire du bien de le faire.
Mais on vous laissera tout votre temps.
Sur
l'euro 40, sur le prix, sur ce fameux accord du 17 juin, dont Jean-Luc Manot disait, il y a quelque chose de dirigiste là-dedans.
Oui, mais je crois que l'ambition du gouvernement, et de Stéphane Le Foll en particulier, c'est de sortir de cette crise de toutes les façons. Alors c'est vrai que le coût du travail est trop élevé en France pour qu'un agriculteur puisse y arriver par rapport à un Allemand, certes, mais les Allemands aussi se servent de la main-d'œuvre des pays d'Europe de l'Est, et ils ne jouent pas le jeu non plus. Donc la clé, elle est bien à Bruxelles,
et les gens qui
début septembre,
disent, on ne veut pas
dans une
être
réunion
assisté,
des ministres de l'Agriculture.
On veut qu'on arrête sur les taxes et qu'on arrête sur le coût du travail et d'autres normes. on voudrait pouvoir travailler de manière plus libre, qui nous permet de gagner notre vie en travaillant. C'est pas absurde de les écouter un peu. Je dis pas qu'ils ont raison sur tout.
On l'a dit
tout à l'heure, il faut restructurer.
On n'est pas dans notre précaré et c'est juste urgent effectivement d'harmoniser des mesures sociales, des mesures sanitaires au niveau européen pour que tous les États membres s'y retrouvent en quelque sorte. On ne peut pas raisonner franco-français dans cette situation, c'est pas possible. Et il a raison, le FOL, de réunir les gens.
Je pense que réfléchir au niveau européen, c'est baisser les taxes.
Là, il y a une responsabilité de la part de la France aussi. Je suis désolé, c'est cette histoire d'embargo russe. Parce que l'embargo russe, alors là, c'est pas du tout structurel, c'est conjoncturel. Mais l'embargo russe pèse énormément sur l'agriculture française.
Allez, on va se retrouver dans un petit instant.
Et ça, on peut discuter de la nécessité de ce genre de mesures.
Pour parler du ministre de l'Agriculture, Stéphane Le Foll.
Florence Cohen, on refait le monde
dans RTL Soir.
Avec ce soir Jean-Luc Manot, Philippe Besson, Annie Lemoine et Yves Tréhard. On va continuer donc de parler de cette crise des éleveurs, mais sous l'angle politique. Le ministre de l'Agriculture, Stéphane Le Foll, est allé tout l'été de réunions en table ronde, encore aujourd'hui. Il a été reçu à déjeuner par François Hollande. Il est passablement enlisé dans cette crise, Stéphane Le Foll, et de toute façon, il faudra faire des ajustements dans le gouvernement pour remplacer François Rebsamen au ministère du Travail. Alors, faut-il en profiter pour exfiltrer Stéphane Le Foll, Philippe Besson ?
Ah, moi, je pense que non. Si on exfiltrait Stéphane Le Foll, ça serait un mauvais signal envoyé de manière générale. Ce serait dire qu'on cède ou je ne sais pas. Enfin, je ne sais pas. Ce ne serait pas une bonne idée. Puis en plus, jusque-là, je trouve que Stéphane Le Foll a plutôt été un bon ministre de l'Agriculture. Bon. Par ailleurs, j'ai envie de dire que si on devait couper la tête de tous les ministres qui affrontent une crise, il faudrait relancer la production de paniers en France pour accueillir les têtes qui auraient roulé dans le son. Donc non.
Donc
là,
non.
Ça paraît pas une bonne idée. Par ailleurs, moi, c'est pas ma conception de la démocratie. C'est-à-dire, je crois pas qu'il faille à un moment faire sauter des ministres à chaque fois qu'il y a une crise, que ce soit ceux-là ou ceux d'avant ou ceux d'après. Parce que sinon, ça sert à rien qu'on élise des gens, qu'on bâtisse des gouvernements, qu'on fasse des majorités, etc. Mais en revanche, et je rebondis sur ce que disait Jean-Yves tout à l'heure, c'est que je suis moins choqué comme lui par le côté économie administrée. Je trouve absolument extravagant que le ministre de l'Agriculture fixe le prix du porc. Va-t-il fixer demain le prix de l'huile, le prix du sucre? Enfin bon. Mais j'en tire une conclusion différente. Moi, ce qui me choque, c'est qu'on fasse appel, comme toujours, comme à chaque fois, au gouvernement en disant « help, au secours », etc. C'est-à-dire qu'on nous explique que la concurrence pure et parfaite, c'est merveilleux, qu'on veut vivre dans une économie libérale, libérée de toute contrainte, dans le capitalisme, que tout ça va bien, etc., et que ça va se réguler. Mais qu'évidemment, dès qu'il y a une crise, alors là, il faut évidemment que le gouvernement nous aide, fasse tout, arrête tout, etc. Ça me choque profondément. Il y a un moment où on considère que l'État doit intervenir, mais alors il faut accepter qu'il lève l'impôt, qu'il fasse tout. Ou alors, si on considère qu'on est des bons capitalistes, qu'on vit dans un système de concurrence pure et parfaite.
On fait dans le capitalisme.
Il faut aller jusqu'au
bout. Je
reviens
à ma question de base, exfiltrer Stéphane Le Foll, point d'interrogation, Yves Tréhard.
Oui, bah pour lui, ça serait pas un cadeau, parce qu'il se retrouverait à la tête du ministère du chômage, et je crois que c'est sur le chômage que sera jugé le président de la République, et comme de toute manière, le chômage va continuer à se dégrader,
point barre.
Ça va être compliqué pour lui. Moi, ce qui m'inquiète, c'est pas tellement le fait d'exfiltrer Monsieur Le Foll. Après tout, il connaît le monde agricole, il est sartois, c'est un département que je connais bien, et c'est un département où il a la réalité du terrain devant lui, donc il est un peu démuni, et je crains fort qu'il soit beaucoup plus démuni encore face au chômage, puisque ce chômage de masse qui existe depuis 40 ou 45 ans, il n'y a pas un seul ministre du
chômage qui réussit à redresser la barre. Oui, parce que son nom circule pour éventuellement remplacer
et c'est très triste. Et de toute manière, c'est pas le ministre, les ministres passent, mais ce qui est important, c'est la politique qui est conduite par le Premier ministre et surtout par le Président de la République. Et le Président de la République ne se résout pas à faire les réformes qu'il faudrait pour que le marché du travail en France s'améliore. Monsieur Rebsamen, quand il est arrivé, il avait eu deux ou trois idées qui étaient évidemment dirimantes par rapport à l'orthodoxie socialiste. Et immédiatement, il avait été prié de baisser le ton et puis de faire ce que François Hollande fait depuis le début, c'est-à-dire sponsoriser les emplois aidés qui grèvent le budget de l'État. Et qui sont pas des bonnes mesures.
Vous enfin,
c'est
qui
des
parliez...
mesures qui avaient été prises aussi par la droite, qui faisait exactement la même chose.
C'est dit. Vous qui parliez de message, Philippe Besson, ce serait peut-être pas le bon message justement d'exfiltrer Le Foll juste avant la réunion européenne du 7 septembre, Jean-Luc Manot. Il y a ça aussi, hein.
Oui, non, mais en plus, c'est pas ça le problème. En l'occurrence, les questions sont tellement lourde que vous pouvez. C'est pas une question de.
D'homme. Oui, enfin, il y a des ministres qui sont tombés sur des questions lourdes aussi.
Non, là où je suis pas complètement d'accord avec ce qu'il dit tout à l'heure, c'est que la constitution de la démocratie, c'est quand les ministres échouent. Il y a des pays où ils s'en vont. C'est évidemment une exception française de faire que ils restent surtout quand ils ne réussissent pas. Mais ça, c'est une autre question. Mais, et je dis ça avec un peu d'ironie, mais on sait bien qu'en France, démissionner ou être renvoyé, c'est quand même rarissime. Mais en l'occurrence là, Le Foll est un ministre dans la bonne moyenne. C'est pas quelqu'un qui a commis des fautes. Il n'y a pas eu de faute dans la gestion de la crise, de faute manifeste.
Ne réclame pas sa tête.
C'est exact. À sa propre communication, à ses propres décisions. Donc il y a pas de responsabilité intuitue personnelle.
Il y en a beaucoup qui devraient dégager.
Michel Sapin. Oui, c'est ce qui était dit tout à l'heure. Si c'est à l'aune des résultats, oui. Il faudrait même procéder à une élection présidentielle d'urgence. Et donc c'est pas ça la question. Et évidemment, ce serait à l'aube d'une négociation internationale, une négociation européenne qui est très importante. Ce serait sans doute une erreur tactique que de changer de ministre.
Idem, Annie Lemoine.
Mais je pense qu'il a mis réellement son énergie, son âme, son ADN à résoudre cette crise et que on lui doit la réunion des ministres de l'agriculture début.
Vous avez pas des relations familiales avec lui.
Non, mais je pense que c'est un bon ministre et qu'il a à cœur précisément de sortir les agriculteurs, les éleveurs de cette crise réellement. Et que s'il n'avait pas fait ce qu'il a fait, ces tours de table, ça, ces réunions, on le lui aurait reproché. Donc on peut pas non plus lui reprocher de l'avoir fait. Qu'est-ce qu'il peut faire de plus? Et c'est bien la question la plus angoissante.
Absolument, parce que pensez-vous maintenant de sa gestion de la crise, par exemple Philippe Besson, c'est-à-dire il a dit tout l'été, voilà, c'est grave, c'est embêtant, mais je peux rien faire. Il a quand même, pour le coup, dit une part de vérité.
Parce que c'est une vérité. Et il y a une part d'impuissance absolue. Ça n'est pas de son ressort. C'est aussi ça que je voulais dire tout à l'heure. C'est qu'il y a un moment, on attend d'un gouvernement, de pouvoir public, etc., des choses qui ne sont pas dans leur pouvoir. On a eu cette discussion, je me souviens, au moment de SFR, Bouygues Télécom, où les ministres avaient dit, mais il n'est pas question que M. Drahi rachète Bouygues Télécom. Enfin, si M. Bouygues avait voulu vendre Bouygues Télécom à SFR, il l'aurait vendu et basta cosy. Donc il y a un moment, ça ne dépend pas d'un gouvernement ou d'un ministre, fut-il compétent ou incompétent.
Non, mais ce qui est vrai, si vous voulez, c'est que on va pas tourner autour du pot. L'agriculture a quand même été un des secteurs les plus administrés.
Les plus aidés
en France, en
Europe. C'est d'ailleurs peut-être ça une part du problème.
Et elle est là, la part du problème. C'est que, rendez-vous compte que 75% de la population, il y a un siècle, vivait dans des milieux, un milieu rural, avec des gens qui étaient pour la plupart d'entre eux au champ. Et aujourd'hui, c'est à peine 1 million de personnes, les foyers compris, qui sont aujourd'hui les mains dans la terre, si je puis dire, et les pieds dans la terre. Donc, on a cherché à préserver le monde agricole. Et on n'a pas vu qu'il y avait des mutations qui se faisaient à l'aune de la mondialisation.
Mot de la fin,
et d'une Europe qui, elle, n'en pouvait plus non plus. Eh bien, c'est ça qu'on n'a pas su anticiper.
On voit bien que c'est aussi les limites d'un modèle. Parce qu'aujourd'hui, un paysan heureux, c'est un paysan qui produit et qui vend directement. Donc les circuits courts sont une des solutions.
Exact. On va se retrouver dans un petit instant pour manger à la cantine, avec ou sans porc, c'est ça la question.